RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, c'était une victoire notamment acquise grâce au soutien actif de l'extrême droite américaine, séduite par les phrases choc du candidat sur l'immigration pendant la campagne. Les mouvements qu'on appelle de droite alternative aux États-Unis sont plus que jamais en expansion. Les sites internet nationalistes ont augmenté leur fréquentation, les crimes racistes sont à la hausse et les défenseurs de la race blanche s'expriment de plus en plus ouvertement avec une stratégie politique affirmée. Notre correspondante aux États-Unis s'est rendue dans un état du Sud, le Tennessee, blanc, raciste et fier de l'être. Grand reportage, signé Anne Corpet.
C'est un petit groupe, extrait de l'Amérique dans sa diversité. Un homme noir, un autre blanc, deux femmes voilées, des étudiants métis, deux prêtres et une femme blanche d'une soixantaine d'années. Ils chantent dans le hall du Parlement de Nashville, capitale du Tennessee. Juste derrière eux, un buste trône dans une niche située à quelques mètres de la salle où se réunit le Parlement. Il représente Nathan Bedford Forrest, une figure du Ku Klux Klan. C'est sa présence qui rassemble les manifestants. Comme elle, Ilo Lelard de l'Alliance Culture Afro-Américaine prend le micro.
Nous ne cesserons jamais de lutter pour obtenir le déplacement de ce buste. C'est un symbole de haine. Il appartient au musée. Cet homme appartient au musée. Tout ce à quoi il croyait appartient au musée. La haine, les tueries, le meurtre, c'est ce que représente ce buste et il doit partir.
Justin Jones dirige le mouvement Moral Tennessee.
Nathan Bedford Forrest était le premier grand sorcier du Ku Klux Klan et un général qui a massacré 300 soldats noirs. Et ici, au Parlement du Tennessee, il l'honore. Donc on est là parce qu'il y a demain une marche des défenseurs de la race blanche et on fait le lien avec ce qui se déroule ici au Capitole. Pour nos législateurs, les suprémacistes blancs sont les bienvenus.
Il y a eu une tentative pour déplacer la statue, un vote. Que s'est-il passé?
Nous avons organisé une manifestation et demandé au gouverneur de déplacer la statue après les émeutes de Charlottesville. Les législateurs ont protégé la statue, ils ont voté pour la laisser en place.
Je suis Glenn Cassada, chef de la majorité républicaine à la Chambre du Tennessee.
La loi sur la protection du patrimoine a été votée pour empêcher le déplacement de statues controversées. Par exemple, il y a le bus de Bedford Forrest ici au Capitole. Il offense certaines personnes. Pourquoi était-il nécessaire de faire passer ce texte?
Je crois que l'un des fondateurs de ce pays a dit que si on oublie l'histoire, alors elle se répète. Cette loi de protection du patrimoine stoppe les réactions nerveuses de la gauche qui veut faire des choses qui m'offensent, moi.
Vous pensez que la place de Bedford Forrest est au Capitole?
C'est une décision qui appartient à la commission parlementaire. C'est un groupe d'historiens composé de 24 membres. Certains sont élus, d'autres désignés. Ce comité a décidé que c'était un monument historique. Et je suis d'accord.
L'histoire pourrait appartenir au musée, c'est ce que dit l'opposition.
Non, je ne suis pas d'accord. L'histoire ne doit pas être mise au musée. L'opposition voudrait mettre au Capitole des statues avec lesquelles je ne suis pas d'accord, comme celle d'Hugo Chavez ou Fidel Castro. Je pense vraiment qu'ils le feraient.
La coupole verte de la mosquée de Murfreesboro s'élève juste à côté du clocher blanc d'une petite église. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres au sud de Nashville. C'est dans cette petite ville que les défenseurs de la race blanche ont choisi de manifester en cette fin octobre. Un choix qui inquiète les fidèles, comme Asia Malik, venue prier ce vendredi.
On a malheureusement vu cette montée du suprémacisme blanc et du nationalisme. On ne voyait pas cela avant. Cela existait, mais ce n'était pas si voyant. Et maintenant, on vit avec cela à Murfreesboro. Il y a eu des controverses quand cette mosquée a été construite et des actes de vandalisme récemment. Des insultes taguées sur les murs, du bacon, soit du porc à l'entrée de la mosquée. Ce sont des actes très blessants pour les musulmans et pour d'autres qui ont aussi été vraiment choqués.
Cela a commencé quand nous avons obtenu notre permis pour construire cet endroit où nous nous trouvons.
Salès Benati est l'un des administrateurs du centre islamique de Murfreesboro. Il a affronté pendant 8 ans l'hostilité d'un groupe de résidents du comté qui s'est battu avec acharnement contre la construction de la mosquée.
Il y a eu des mises à feu, des menaces de bombes. On a entendu tirer, c'était des coups de feu. Après toutes les intimidations, ils ont entamé un procès en affirmant que l'islam n'était pas une religion et que donc notre permis devait être suspendu. L'islam est reconnu par les autorités fédérales comme une religion. Mais cela ne les a pas arrêtés. Donc ils ont porté l'affaire devant la Cour suprême du Tennessee, qui a rejeté la plainte. Ils sont donc allés devant la Cour suprême américaine, qui a aussi rejeté la plainte. Donc oui, il y a beaucoup de tensions, mais plus récemment, on a observé une hausse de l'islamophobie, des élections de 2016 à maintenant. Pendant les primaires du Parti conservateur ici, le candidat au congrès local a sorti une banderole qui affirmait que l'islam n'était pas une religion, qu'on voulait imposer la charia et détruire la Constitution. It's meant to bring Sharia law into this country,
overtaking the Constitution. La frange la plus extrême de la droite américaine s'est intéressée de près aux tensions autour de la mosquée de Murfreesboro. Et ce n'est pas un hasard si ce samedi, c'est à Murfreesboro et à Shelbyville, un peu plus au sud, que 2 manifestations pour défendre la race blanche sont organisées. Brad Griffin est membre de la Ligue du Sud, une organisation ouvertement raciste. Très actif sur Twitter, sous un faux nom, il est à l'origine de ces rassemblements.
Les problèmes de mosquées ici, c'est nouveau. Et dans cette région, il y a un afflux particulier de réfugiés. Vous savez, un réfugié soudanais a tiré dans une église par ici. Cela a été traité comme un événement très local. Mais on pense que cette histoire a été négligée et donc on veut organiser ce défilé pour la défense des Blancs. En venant ici, on veut dire que les Blancs ont leur dignité et leur intérêt à défendre. C'est tellement tabou. Nous voulons briser ce tabou, rendre notre mouvement plus normal.
Vous voulez normaliser le mouvement blanc ?
Oui, je veux normaliser le mouvement blanc. Nous sommes dans un pays libre et les Américains ne devraient pas avoir peur d'exprimer leur opinion dans un pays libre.
Avec leurs salopettes et leurs chemises à carreaux, les frères Chris et Chad Bagel détonnent un peu dans la foule habillée majoritairement tout en noir. Ils se tiennent un peu à l'écart et attendent de passer les contrôles de sécurité. Chris et Chad sont venus du centre de l'Alabama en curieux. À chaque nouvelle manifestation, les défenseurs de la race blanche attirent ainsi des nouveaux venus.
Je veux en apprendre plus sur eux. Je suis venu de leur côté, mais je ne suis pas sûr d'adhérer à 100%. Je suis fatigué de voir des Noirs qui se contentent d'aller aux services sociaux chercher leur chèque, qui ne travaillent pas et ne payent pas d'impôts. Et j'en ai marre de voir mes impôts leur être distribués pour qu'ils puissent rester toute la journée chez eux assis sur leur cul à regarder la télé.
Je vais vous dire, il y a 5 ans, j'étais impliqué dans Occupy Wall Street. Je pensais que ça pourrait peut-être changer les choses. Ça n'amenait à rien. Il me semble qu'il faut du changement. Parce que le monde occidental, d'après ce que je peux en juger, est en train de mourir. Je veux dire, notre population baisse, on est mort spirituellement, les gens se sont détournés de Dieu, la vieille tradition tombe en poussière, l'ordre ancien doit être renversé. Vous savez, on a besoin de changement.
Un par un, les militants suprémacistes se soumettent au contrôle de sécurité. Certains portent des tatouages du Ku Klux Klan, d'autres des drapeaux sudistes confédérés, d'autres arborent même le signe SS sur leur veste. La majorité des manifestants sont habillés tout en noir ou en pantalon kaki. Il y a un code vestimentaire qui a été donné sur Internet avant la manifestation et apparemment tout le monde a suivi les consignes. Les coupes de cheveux sont très courtes. Il y a une majorité d'hommes dans la foule, mais aussi des femmes, des jeunes femmes pour la plupart. Les contrôles de sécurité sont très stricts. Aucune arme à feu n'est autorisée. Pas de batte de baseball. Même les parapluies sont interdits et les perches selfie ont aussi été prohibées. White lives matter! White lives matter! Les militants marchent au pas au cri de « White lives matter, les vies blanches comptent ». Les hommes du parti traditionnel ouvrier ouvrent le cortège derrière des boucliers. Matthew Hambach est le chef de ce parti national socialiste. Son objectif, c'est l'éclatement des États-Unis et la création d'un vaste État blanc.
L'Amérique est un énorme empire qui ne fonctionne pas, donc il faut nous séparer. Le multiculturalisme a échoué, on doit accepter cet échec et aller de l'avant, en finir avec les États-Unis et avec l'empire. Nous vivons enchaînés, il faut briser ces chaînes.
Donc vous auriez un État blanc et...
Un État noir, un État hispanique, un État asiatique.
Et quels seraient les États blancs?
Le Midwest et les Appalaches, ce sont des régions majoritairement blanches qui ont été abandonnées économiquement et socialement, et nous pouvons faire mieux pour elle que Washington DC.
Que pensez-vous de Donald Trump? La plupart d'entre vous ont soutenu sa campagne.
Donald Trump est pour nous une opportunité pour avancer notre message. On a vu une normalisation du nationalisme, mais on savait qu'il nous abandonnerait et qu'il manquerait à ses promesses. C'est pour cela que nous devons aller plus loin que Trump. Trump a ouvert la porte et à nous d'aller plus loin.
Donc, quelle est votre stratégie?
D'abord, participer aux élections locales et dans les États, prendre le contrôle de conseils municipaux, de positions locales, pour être bien ancré politiquement, et ensuite affirmer notre autorité sur ces régions et devenir une nation indépendante.
Les militants qui entourent Matthew Hambach n'ont aucun tabou. Le chef du parti traditionnel ouvrier entame son discours. Les militants saluent Matthew Hambach par des « Heil Hambach » et des saluts hitlériens. Il est entouré d'hommes en chemise noire. Certains ont la signe SS au revers de leur chemise. D'autres portent des casques sur le modèle des casques allemands de la Seconde Guerre mondiale, avec un autocollant dessus « National-socialisme maintenant », sur lequel figure un jeune homme qui fait le salut hitlérien. Parmi les admirateurs de Matthew Hambach, certains se présentent sous leur grade, major SS, et revendiquent leur appartenance à une branche américaine de la compagnie allemande de sinistre mémoire. Ils tiennent des propos antisémites, négationnistes, qui en France sont sanctionnés par la loi. Mais ici, aux États-Unis, le premier amendement garantit la libre parole, même si elle est inique, raciste, dangereuse. Le sang et la terre, hurlent également les militants. Ils revendiquent un droit ancestral, inaliénable sur ces terres qui ont pourtant été extorquées aux Indiens. À ce sujet aussi, l'histoire est ici revisitée. Michael Hill, fondateur et président de la Ligue du Sud, une organisation raciste qui revendique, elle aussi, la création d'un État blanc.
Nous, nous sommes les garants de la civilisation. Nous avons notre terre ici, dans le Sud. Ma famille est ici depuis des générations, c'est ma terre. Ces gens veulent l'abandonner à des gens qui viennent d'autres parties du monde. Mais nous allons nous lever et nous battre pour chaque centimètre carré.
Vous vous sentez menacé?
Oui, nous sommes menacés par des gens qui arrivent massivement pour vivre sur nos terres. On se sent menacé parce que quand il y a un afflux massif de différentes races, différentes cultures, différentes ethnies dans un territoire comme le nôtre, qui est culturellement et racialement homogène, cela change la nature du lieu. Si cela continue, mes enfants et mes petits-enfants vont vivre en minorité dans un pays que mes ancêtres ont créé. Et ce n'est pas juste.
Mais est-ce que les États-Unis n'ont pas été construits grâce à l'immigration?
Non, non, mes ancêtres n'étaient pas immigrants, ils étaient des colons. Mes ancêtres sont venus ici quand il n'y avait rien d'autre que la nature sauvage.
Et les Indiens?
Les Indiens sont venus d'Asie.
La terre des Indiens, ce qu'on appelle les Américains natifs.
Écoutez, ils n'étaient pas natifs d'Amérique, ils sont venus d'ailleurs comme nous, ils sont venus d'Asie.
Une bataille sonore s'engage avec les contre-manifestants juste de l'autre côté de l'avenue. Chacun tente de couvrir le camp d'en face. Côté néo-nazi, ça crie, ça hurle dans le micro. Chez les contre-manifestants, on diffuse en plus de la musique.
Écoutez! Je n'ai pas peur de votre musique. Votre musique de merde, vraiment mauvaise. Je me qualifie de nazi. Je suis un nazi, je suis un fasciste. Je suis national-socialiste. Je suis un homme blanc, je suis blanc. Et je suis fier.
Il y a 300 militants néofascistes d'un côté, au moins 600 rassemblés sous des banderoles célébrant la communion entre les races de l'autre. Des barrières de sécurité et des policiers lourdement armés séparent les deux cortèges qui finiront par se disperser sans incident. Dimanche matin, à la Burnett Chapel de l'église de Jésus, à Antioche, c'est ici qu'il y a tout juste un mois, un homme d'origine soudanaise a ouvert le feu. Mélanie Crow, 38 ans, mère de deux enfants, a été tuée. Plusieurs autres personnes blessées. Le tireur a été maîtrisé par un des fidèles et interpellé. Le pasteur Joe Espan fait enfin son retour parmi les fidèles. Il sort tout juste de l'hôpital.
Je me sens mieux. C'est un long processus. J'ai perdu un doigt. J'ai encore des accessoires, deux poches de sang. Donc j'ai encore des drains. Mais ça va mieux.
Et votre femme a été blessée aussi.
Peggy est toujours hospitalisée.
Comment va-t-elle ?
On lui a tiré dans la jambe et ses nerfs ont été touchés. Donc, elle en a encore pour plusieurs semaines, vous savez.
Je couvrais la manifestation hier à Shelbyville. Les suprémacistes blancs disaient qu'ils manifestaient pour défendre votre église.
Non, ils ne manifestaient pas pour nous.
Vous n'avez pas besoin de leur soutien.
Non, l'église n'a rien à voir avec ça. Rien, point à la ligne. J'aurais préféré qu'il ne mêle pas notre église à tout ça.
À l'issue du service, les paroissiens, blancs, noirs, métis, échangent des nouvelles. Certains racontent qu'ils font encore des cauchemars un mois après l'attaque. Personne ne connaît les motifs du tireur. Il fréquentait l'église il y a longtemps. Soudain, le pasteur Joe Espan s'inquiète.
Il y a des gens avec une banderole dehors, donc je ne sais pas si vous voulez aller voir ce que c'est et puis après vous revenez.
Avant, on était des héros, on défendait notre terre, on défendait notre foi, on défendait notre peuple. Et maintenant, on nous détruit et on reste assis, on ne fait rien. Donc je vous demande, s'il vous plaît, levez-vous avec nous et ne vous laissez pas railler, assassiner et détruire. Murdered
and destroyed. Quatre jeunes sont dehors avec leur mégaphone et une banderole sur laquelle on peut lire « Défendez l'Amérique, les réfugiés tuent, défendez notre foi ». L'un d'entre eux était la veille à la manifestation pour la défense de la race blanche. Nous nous approchons. Le pasteur de l'église qui a été blessé dit qu'il ne veut pas de vous. Ils n'ont pas besoin de votre soutien. Qu'avez-vous à leur dire ?
Peu importe le bord politique auquel on appartient quand on dénonce la violence, on est là pour parler d'une tragédie, on est là pour parler de notre foi, et notre peuple en Amérique est attaqué.
Demandez aux gens ce qu'ils pensent, vous essayez de les aider, mais ils ne veulent pas de vous.
Écoutez, peut-être qu'ils ne veulent pas de nous, qu'ils ne nous aiment pas, cela m'est égal. Moi, je me soucie d'eux. J'ai toujours cru qu'on était censé aimer ses voisins.
Quelle que soit la couleur de sa peau.
Je pense que ce qui est vraiment important ici, c'est que ces gens sont nos voisins et ils sont attaqués. Et à travers tous les États-Unis, tous ces gens qui sont blancs sont attaqués. Les blancs sont ciblés en Amérique. Les chrétiens sont attaqués en Amérique.
Un passant intervient, s'échauffe, évoque les violences dont les Noirs sont majoritairement victimes aux États-Unis. Une femme sort de l'église à petits pas. Elle vient parler aux jeunes.
Mon père est pasteur. Vous savez, c'est une femme portoricaine, une femme noire qui lui a sauvé la vie.
C'est peut-être vrai et c'est vraiment bien que cette personne lui ait sauvé la vie. Mais ce n'est pas mon propos. C'était un immigré soudanais.
Je veux juste que vous sachiez que je suis contente que ce type n'ait pas tiré sur les gens de couleur, sans quoi mon père serait mort. Prenez juste ça en considération. Ok ? Maintenant, bonne journée.
Les quatre jeunes replient leurs banderoles, une voiture de police arrive, contrôle leurs identités et les laisse partir. J'étais le premier sur place ici après la fusillade, confie le sergent. Et ce genre de type, je n'aime pas ça du tout. Mais la liberté de parole est sacrée dans ce pays, pour tous, même pour les nazis. Blanc, raciste et fier de l'être, un reportage dans le Tennessee signé Anne Corpet, à la réalisation Pierre Chaffanjon.